Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 358 du podcast Jean Actuel. Maté, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission. À mes côtés, encore une fois, pour débriefer la draft, Grégory Richard, bonjour.
Salut Alain et bonjour à tous.
Depuis la Suisse, Kevin Zarmaten, bonjour.
Bonjour.
La deuxième de nos deux émissions de débrief de la draft, les conseils de classe. Vous avez l'habitude maintenant, après la FC, on passe à la NFC. On débrief équipe par équipe dans chaque division avec des félicitations, des compliments, des encouragements, un passable ou un redoublement. Nous n'avons pas distribué de redoublement encore dans la première partie de l'émission avec la FC, mais nous avions distribué trois félicitations aux Ravens, aux Broncos et aux Bills, si je ne dis pas de bêtises. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi une boutique en ligne, brooklynfizz.fr, Brooklyn Fizz avec deux Z. Il y a du sucré, du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko Pop, des goodies et tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Messieurs, l'AFC, c'était plutôt pas mal dans l'ensemble. Juste un petit avant-goût, la NFC, c'est mieux, c'est moins bien. C'est un peu moins bien, hein, si je dis pas.
C'est plus disparate, je pense.
C'est plus disparate, on est d'accord. Bon, qui a fait les bons choix? Qui va s'en mordre les doigts? On en parle maintenant après un jingle.
With the second pick in the 2020 NFL Draft, the Washington Redskins select Chase Young, defensive end, Ohio State. Don't believe me, just watch.
Je vois des têtes qui bougent à travers les webcams. Messieurs, nous allons commencer ce débrief avec la NFC West et les finalistes du dernier Super Bowl, les 49ers. Les 49ers qui ont sélectionné Javon Kinlow, defensive tackle, Brandon Ayuk, receveur, Colton McKivitz, tackle, Charlie Werner, tight end et Jawan Jennings, receveur également de son état. Deux receveurs, un tight end, un lineman offensif, un lineman défensif. Il n'y avait pas grand-chose à choisir du côté de San Francisco, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Est-ce que ça renforce encore l'attaque? Alors, il y a eu du turnover hein, au niveau des receveurs. Ils ont perdu Emmanuel Sanders. Ils en ont envoyé un, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Philadelphie. Et son nom m'échappe, c'est Marquise Goodwin.
Oui,
c'est ça. Est-ce que Brandon Ayuk et Jawan Jennings, ça renforce cette attaque aérienne? On sait que Kyle Shanahan est quand même un gourou aérien, Grégory. Tu le connais bien.
Oui, oui, j'en ai un peu entendu parler. Non. En tout cas, oui, ça apporte de la vitesse, ce qui est important dans son système. Brandon Ayuk, c'est encore plus rapide qu'Emmanuel Sanders avec un gabarit relativement similaire. Et bon, après, ça, je sais pas en termes de menace profonde ce que ça propose du côté de San Francisco, mais voilà, si encore une fois, on veut jouer principalement sur les décrochages, les prises d'espace ou ce genre de choses, ça va donner une attaque peut-être avec un caractère un peu unidimensionnel, mais pourquoi pas. Écoute, en tout cas, le tout, c'est pas d'avoir 40 systèmes différents, c'est d'en avoir un qui est inarrêtable. Et si c'est la volonté de Kyle Shanahan, a priori, les joueurs qu'il a à sa disposition devrait faire l'affaire. Jawan Jennings, c'est un joueur qui a beaucoup glissé, notamment en raison de problèmes comportementaux, mais sinon ça reste un super joueur sur le papier. Donc non, honnêtement, j'étais juste un petit peu déçu par le fait qu'il n'y ait pas forcément de defensive back de drafté du côté de cette équipe de San Francisco. Je pense que ça n'aurait pas été trop, mais là encore il y a 5 choix, donc bon, j'irai sur encouragement à titre personnel sans plus.
Kevin, est-ce qu'ils ont fait le nécessaire avec leurs 5 choix?
Je serais peut-être un petit peu plus positif parce que j'ai envie d'inclure ça, évidemment, l'addition de Trent Williams, parce que ils envoient un cinquième tour et un troisième tour l'année prochaine, mais ça fait partie quand même de cette draft où Joe Staley part, et justement, je pense qu'ils vont encore, améliorer leur jeu au sol avec Trent Williams, qui est probablement encore, alors que Joe Staley était un très bon left tackle, mais qui est quand même un peu qui est sur la fin, clairement.
Et ah, ben, bah, il prend sa retraite,
Voilà, justement. Et pour moi, Javon Kinlow remplace, entre guillemets, un peu DeForest Buckner, et donc Brandon Ayuk remplace Emmanuel Sanders. Donc pour moi, c'est quand même très solide pour le peu qu'il y avait à faire, en fait.
Bon. Donc toi, tu partirais plus sur compliment?
Oui. C'est clairement, même.
Et un encouragement pour Grégory, si j'ai pas dit de bêtises. Là, c'est difficile parce que vous avez l'air d'être à peu près tous les deux sûrs de vos positions, donc je ne sais pas quoi faire. Moi, il y a peu de choix. C'est vrai que Trent Williams, c'est pas mal. Jawan Kinlow, est-ce que, à la limite, départagez-moi sur Jawan Kinlow, est-ce qu'il remplace bien DeForest Buckner?
En fait, c'est vraiment compliqué parce que moi, si j'ai encouragement, c'est pas forcément les joueurs qui vont arriver sont pas forcément moins bons, mais après, est-ce qu'ils seront meilleurs? J'en suis pas persuadé. DeForest Buckner, c'était quand même un joueur hyper dissuasif au milieu de la ligne. Jawan Kinlow, il va falloir quand même, je pense, un petit peu d'apprentissage. Ça peut être un super joueur à moyen terme, mais va y avoir peut-être besoin d'un peu d'apprentissage. Et là encore, si je prends la perspective de la prochaine saison, ce sera tout aussi efficace, mais on n'a peut-être pas forcément comblé des besoins qui avaient besoin d'être, des besoins qui devaient être pris en compte. C'est pour ça ma logique, celle-ci.
Allez, je vais dire des gros encouragements, voilà, pour combler, pour trancher entre les deux, même si j'aime bien aussi le fait d'utiliser un choix pour récupérer Trent Williams. Les Seattle Seahawks, Jordan Brooks, linebacker, Darrell Taylor, defensive end, Damian Lewis, guard, Colby Parkinson, tight end. On l'espère qu'il l'est pas vraiment, parce que ça va être dur pour attraper les ballons. DJ Dallas, running back, Dallas à Seattle, c'est dommage, dis donc aussi. Il y avait Ezra Cleveland et DJ Dallas, il y en a aucun des deux qui est tombé au bon endroit. Alton Robinson, defensive end, Freddy Swaim, receveur, et Stephen Sullivan, tight end. Je crois que quelqu'un l'a fait remarquer sur Twitter, les Seahawks qui ont réussi à choisir exclusivement des joueurs qui n'avaient pas de fiche sur le site. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire quelque chose de significatif, du type, ils n'ont pris aucune star en puissance, Grégory?
Oui et non, parce que alors après, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué. Il faut anticiper une 4, faut anticiper 80 fiches, mais je le dis d'emblée, que ce soit Jordan Brooks, que ce soit Darren Taylor ou que ce soit Damien Lewis, ils étaient pas loin. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut faire des choix en fonction des positions. Si on regarde, il y a beaucoup de fiches de quarterback qui ont été faites alors qu'on pensait pas qu'ils seraient dans le top 80. En l'occurrence, s'il y a des joueurs quand même prometteurs, même s'il y a pas forcément de fiches qui ont été faites sur le site. Et on a quand même considéré la défense et le front seven, ce qui était quand même une nécessité. Malgré tout, on rappelle que sur la ligne défensive, même s'il y a encore des bons defensive end possiblement sur le marché pour Seattle, et je serais étonné qu'ils récupèrent pas ou Ngakoue ou Clowney ou voire même Griffin. L'arrivée de Darren Taylor, qui est un joueur avec assez prometteur, avec vraiment une bonne explosivité, un côté assez physique. Alors je sais pas si sur le run stop il sera aussi excellent que ce que peut qu'apprécie, on dira, Pete Carroll dans ce registre là mais en tout cas, en termes de pass rush, je pense qu'on peut être sur le registre d'un Cliff Avril, par exemple, qu'ils ont eu à la belle époque, comme disait l'autre. Camille en parlait de Jordan Brooks, ça peut être bien pour préparer l'après KJ Wright. Donc non, il y a des choix intéressants. Damien Lewis sur l'intérieur de la ligne, quand on sait qu'a priori DJ Flocker a été cuté et Justin Britt est pas loin de la sortie.
J'allais dire que c'est un peu l'essentiel, je me permets de te couper, mais ils ont des besoins, notamment sur la ligne offensive depuis des années. Il n'y a qu'un joueur de ligne offensive, c'est Damien Lewis, donc il peut bloquer 3-4 gars tout seul ou
Non, mais ça c'est le bémol habituel avec Seattle. C'est un peu ce qui est problématique, c'est que oui, tu te dis est-ce qu'il n'aurait pas fallu un tackle, sachant que Dwayne Brown il rajeunit pas non plus d'année en année. Mais voilà, après si tu regardes les autres postes, ça reste relativement complet. À partir du moment où il sélectionne deux defensive ends, dont un qui a quand même une bonne marge de progression et sur un poste où il peut performer, parce que je n'étais pas fan en l'occurrence d'LJ Collier ou de Ryan Green ces dernières années, mais je pense que Darrell Taylor, il y a quand même un beau potentiel. C'est compliqué de leur mettre moins qu'encouragement sur cette draft-là quand même.
Seahawks encouragement pour Grégory, des choix donc pas glamour hein, et pas hyper connus. Kevin, est-ce qu'il y en a un qui retient ton attention en particulier?
Je pense Darrell Taylor quand même, parce que justement il a un bon potentiel. Après, ça, c'est un peu ce que je vois en général sur cette classe des Seahawks, c'est que il y a quand même pas mal de potentiel, mais il y a quand même des incertitudes. Donc, on peut donner encouragement si on est convaincu qu'ils vont être bons à terme, ou on peut donner passable si on pense que ça peut être des busts. Donc,
est-ce que tu es convaincu qu'ils vont être bons à terme, alors?
Je dirais Darrell Taylor et Damien Lewis, oui. Ensuite, Colby Parkinson peut apporter également Didier Dallas. On a vu qu'il y avait beaucoup de blessures du côté des running backs l'année passée. Donc, au final, il y en a quand même quatre, je pense, qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Et probablement quatre dont je ne suis pas particulièrement convaincu.
Bon, encouragement, alors ?
Encouragement.
Encouragement. Allez, on est positif. Hein. Les Rams, Cam Akers, running back, Van Jefferson, receveur, Terrell Lewis, linebacker, Terrell Burgess, safety, Bryson Hopkins, tight end, Jordan Fuller, safety, Clay Johnston, linebacker, Tremaine Encrom, guard et Sam Sloman, kicker. On a pallié directement le départ de Todd Gurley avec Cam Akers, c'est bon ? Kevin. Oh, pardon. Greg avait pris une grande inspiration, il était prêt à y aller là.
Moi, j'aime beaucoup Cam Akers, c'est un de mes préférés. Je pense que je l'avais deuxième dans mon ranking des running backs. Mais est-ce que c'était vraiment un besoin primaire pour les Rams, qui ont sélectionné Darrell Anderson, l'année passée? J'en suis pas persuadé. En plus, on dit que justement Sean McVay est un génie offensif. Donc, est-ce qu'il a tant besoin que ça de nouvelles armes offensives? J'en suis pas non plus persuadé. Van Jefferson, c'est un petit peu la même théorie. Au final, il a quand même des armes en attaque. Donc, est-ce qu'il en avait vraiment besoin aussi haut d'un receveur? Je suis pas sûr. Et puis après, il y a quand même pas mal de paris. Terrell Lewis qui a été bien beaucoup blessé. On sait pas exactement ce qu'il va pouvoir donner au niveau supérieur. Donc, je ne suis pas vraiment convaincu par cette draft des Rams, pour être tout à fait clair.
Bon, pas convaincu. Grégory, est-ce que tu es plus convaincu ?
Pas vraiment non plus. Cam Akers, en effet, c'est un joueur que j'adore, très clairement. Maintenant, le pauvre vient quitter la ligne offensive de Florida State pour se retrouver derrière la ligne offensive des Rams. Je pense qu'a priori, il y a un contrat sur sa tête.
Ils ont pris un mec qui est habitué à galérer, c'est pragmatique.
Oui, c'est ça. Bah, au moins dans le système des merdes, oui, au moins il a un gros potentiel dans ce registre-là. Plus sérieusement, c'est vrai que bon, alors Sean McVay, il en est plus à un paradoxe sur le backfield offensif, hein, puisque du coup, on nous disait qu'on allait partir sur un comité cette année, et puis bon, il décide quand même de drafter un running back numéro 1. Pourquoi pas. Maintenant, pas de cornerback numéro 2 pour vraiment épauler efficacement Jalen Ramsey. Pas de linebacker intérieur pour vraiment remplacer comme il se doit Corey Littleton. Et pas de lineman offensif sur une ligne qui a été plus qu'exécrable en 2019. Donc, il y a des besoins. Enfin, on va dire que l'attaque a été de nouveau très bien considérée. En effet, Van Jefferson, j'aime beaucoup. Même Bryson Hopkins, je trouve, à un an de la fin de contrat de Gerald Everett, c'est pas forcément une mauvaise pioche. Mais voilà, sur des poste majoritairement à besoin en attaque et encore plus sur la défense qui a quand même un petit peu déçu. Aaron Donald ne pourra pas être indéfiniment, enfin je peux même inclure Jalen Ramsey éventuellement, mais ils pourront pas être l'arbre qui cache la forêt toute la saison prochaine, quoi. Donc passable voilà. Pour moi du côté des Rams.
Passable, on descend même pas redoublement.
Il y a des bons choix.
Kevin, t'es prêt à descendre jusqu'où?
Non, moi c'est plutôt passable aussi parce que j'aime bien les joueurs qui ont été sélectionnés en haut, mais c'est vrai que c'est pas forcément ils vont importer, c'est ça en fait le souci, c'est pas vraiment un souci, mais je trouve que c'est mal ciblé en fait.
Bon, passable pour les Rams. Les Cardinals, Isaiah Simmons, linebacker, Josh Jones, tackle, Leki Fotu, defensive tackle, Rashard Lawrence, defensive end, Evan Weaver, linebacker, et Eno Benjamin, running back. Seulement 6 choix sur les 6. Il y en a 4 qu'on leur fiche sur le site. Donc, c'est plutôt du glamour. Il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a de la défense. Lawrence, Weaver, Fotu, Simmons, c'est de la défense. Ils en avaient besoin. Il manquait du monde. Hein, derrière, entre Chandler Jones et Patrick Peterson, grosso modo, il n'y avait pas énormément de choses. Et de l'attaque avec un tackle pour enfin protéger un peu Kyler Murray éventuellement et un running back pour aider Kenyan Drake. Est-ce que ça… En tout cas, ça semble complet sur les besoins.
Bah, écoute, je peux le dire tout de suite. Pour moi, c'est félicitations.
Félicitations.
Ça complète en tout cas la bonne free agency qui a été réalisée par Steve Keim et Cliff Kingsbury. Il manque peut-être, si je veux être tatillon, un bon edge rusher de l'autre côté de Chandler Jones. Après, sur le reste, ils ont quand même été… Kevin le disait dès jeudi, hein, qu'éventuellement, il y avait possibilité de drafter un bon tackle au troisième tour. Bon… Ils ont un énorme coup de bol en récupérant quand même Josh Jones, qui est un excellent projet sur cette position-là. Et puis pour le reste, ouais, non, il n'y a pas un choix où je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est pas… Ça a l'air de bien fitter avec le système et c'est des joueurs en plus qui sont plus qu'intéressants. Donc, non, très franchement, pas mal bluffé par cette draft des Cards et j'irai avec un franc félicitations.
Alors, si on confirme les félicitations, en tout cas, ils auront les félicitations sur la free agency et la draft, hein, je le précise. Kevin, est-ce que tu vas jusqu'aux félicitations aussi? Est-ce que c'est renforcé sur tous les secteurs clés?
Alors, on va dire que Greg m'a convaincu parce que j'étais sur les compliments de par le peu de choix, on va dire, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement bien ciblés. Il y a l'aide à Kyler Murray avec Josh Jones, et puis au final, Kenyan Drake qui a fait une bonne saison l'année passée, mais qui n'est pas non plus encore le meilleur running back de cette ligue. Donc, c'est clair qu'il a porté Eno Benjamin, qui a fait quand même de grosses stats du côté d'Arizona State. C'est un plus. Et puis, au final, après, il se concentre sur une défense qui n'était pas encore au top l'année passée. Donc, c'est vrai qu'au niveau besoin et au niveau de ce que… de valeur, par exemple, de Isaiah Simmons qui leur tombe dans les bras au numéro 8, sauf erreur, c'est parfait pour eux, j'ai l'impression. Donc, oui, félicitations.
Félicitations pour les Cardinals. La NFC West donne donc encouragement pour les Seahawks et les 49ers, passable pour les Rams et des belles félicitations pour les Cardinals. La NFC Nord, on commence avec une des équipes polémiques de cette division puisque ce sont les Packers. Jordan Love, quarterback au premier tour, AJ Dillon, running back, Josiah DeGuara, tight end, Kamal Martin, linebacker, John Runyan, tackle, Jake Hansen, centre, Simon Stepaniak, garde, Vernon Scott, safety et Jonathan Garvin, linebacker. Alors, est-ce que on tombe sur les Packers comme énormément d'analystes américains, en tout cas ce que j'ai vu, sont tombés dessus, avec ce choix très difficilement compréhensible de Jordan Love au premier tour, dont on a quand même pas mal parlé pendant le direct. Qu'est-ce que ça donne à la louche, là, un petit première analyse? Est-ce qu'on est sur quoi on va se situer, Grégory?
Je peux pas être trop manichéen là-dessus. Très franchement, je comprends le choix de Jordan Love.
Mais non.
Mais l'ensemble de la draft ne me plaît pas.
Ah.
Mais je comprends le choix de Jordan Love, je persiste ici.
Comment tu comprends ce choix de Jordan Love? Est-ce que tu as lu l'analyse, enfin les déclarations de
Matt LaFleur?
De LaFleur et Gutekunst qu'on a mis sur le site où ils expliquent qu'en gros le mec sera prêt dans 3 ans et que bah, c'est cool parce qu'Aaron Rodgers sera mais un bon mentor.
C'est ce qu'ils disent. Il faut protéger ton quarterback titulaire qui est un peu susceptible. C'est le jeu.
Tu penses vraiment que ça le rendra moins susceptible parce qu'ils ont dit ça? Je pense qu'ils ont l'impression qu'ils se moquent de lui.
Je sais pas, mais à mon avis, ils vont le laisser un an derrière Rodgers et puis potentiellement à partir de l'année prochaine, les cartes pourront être redistribuées en fonction de ce que proposera le quarterback de Green Bay.
Waouh! Tu penses que Jordan Love menace Aaron Rodgers dans un an?
Bah écoute, si c'est le Aaron Rodgers qu'on voit depuis 1 ou 2 ans, je pense, ouais.
Ok, alors ça c'est osé. Kevin? Est-ce que Jordan Love, je le connais pas assez bien, hein, donc moi je vous écoute, mais on parle d'un futur Hall of Famer qui est 2 fois MVP. Est-ce qu'il va être menacé par Jordan Love dans un an, Kevin?
À la limite, c'est pas vraiment ça qui me, enfin ça peut, c'est pas vraiment ça la question. Pour moi, ce qui me dérange, c'est que on peut dire que Aaron Rodgers est un peu susceptible, on peut dire plein de choses à son propos, mais au final, est-ce qu'on veut pas essayer de gagner un titre encore avec cette équipe?
Ben, bien sûr que si.
Ben voilà, c'est ça qui me pose grandement problème dans cette dans cette draft, je pense qu'il y avait mieux à faire pour l'entourer et pas directement penser à la suite au poste de quarterback.
Mais c'est bien ça le problème, c'est que les déclarations de Lafleur et Kutkurs, c'est qu'ils disent il va l'encadrer pendant 3 ans, par contre, on joue le titre. Ça a aucun sens. Alors, on parlait de direction pour les notes dans la
FC. Si tu veux, moi encore une fois, je précise juste, hein, je discerne deux choses différentes. Le fait de drafter Jordan Love au premier tour, ça ne t'empêche pas de drafter, par exemple, un receveur sur le reste de la draft. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Ouais. C'est pour ça que, encore une fois, je peux avoir mon point de vue sur Jordan Love. On sait que je me trompe rarement sur les quarterbacks qui sortent à la draft. Mais en tout cas, je peux avoir mon point de vue sur la logique et sur la possibilité de se dire, on a un joueur comme Jordan Love qui nous plaît à la position qui est la sienne. Et voilà, et à moyen terme, on veut remplacer Aaron Rodgers. Mais à côté de ça, oui, il faut faire des choix en cohérence qui, dans une équipe qui était globalement complète, peut te permettre, un peu comme le font les Saints à l'heure actuelle, de te dire, voilà, ça nous empêche pas, en draftant le quarterback qu'on estime être du futur, d'ajouter des pièces à côté. Mais il n'y a pas de receveur. Ils avaient des besoins en inside linebacker. Je suis pas sûr que Kamal Martin soit la solution, en tout cas, dès 2020. Et il y a d'autres postes, en effet, où ça pose des questions, notamment sur les deux lignes. La ligne offensive, Ricky Wagner, qui reste un joueur susceptible de se blesser. En tight end, ils prennent Josiah DeGuara comme possible tight end numéro 1, mais c'est pas le tight end, en tout cas, qui m'avait le plus bluffé dans cette classe-là. Donc voilà, c'est ces questions-là. AJ Dillon, ça reste un joueur à considérer, sachant que les deux coureurs sont free agent l'année prochaine, mais c'est un joueur qui reste quand même très unidimensionnel dans son jeu, donc mettre un deuxième tour sur lui, ça me paraît également très très prématuré. Voilà, c'est le cheminement est pas logique sur le reste de la draft. Après, encore une fois, la question de Aaron Rodgers, indéboulonnable ou pas, j'ai mon avis là-dessus, mais bon, c'est alors, pas ça qui fait que je mettrai un avertissement pour répondre à ta question au Green Bay Packers sur cette draft.
Après, si on enlève Love, même si on prend pas le cas Love sur le truc, mais tout, il y a aucun autre choix qui a l'air de te convaincre.
Si, bah encore une fois, Edith Dillon, c'est pas trop mal, mais oui, c'est sûr que l'ensemble de la classe, si tu cherches un joueur d'impact en 2020, j'en vois pas.
D'accord, donc ça ressemble quand même pas vraiment à une bonne draft.
Et c'est pour ça que je te dis que moi, pour moi, je mettrais avertissement. Mais ce n'est pas à mettre en corrélation avec la simple sélection de Jordan Love.
Alors, on n'a pas avertissement, c'est passable ou redoublement?
Ah, pardon, bah redoublement alors, pardon.
On est d'accord. Ce serait le premier. Kevin, oui. Redoublement?
Redoublement.
Bon, redoublement. Toi non plus, il n'y a aucun choix qui te convainc en dehors du dossier Love.
C'est-à-dire que je trouve que c'est mal ciblé en fait, parce que je pense qu'ils auraient dû peut-être cibler encore une fois la ligne offensive un peu plus haut, des receveurs un peu plus haut, et peut-être justement la défense, enfin même carrément dans les derniers choix uniquement, parce que la défense était quand même relativement satisfaisante l'année passée, même s'il y a quelques retouches à faire. Et puis ouais, moi, c'est pas que j'aime pas Jordan Love non plus, c'est pas que j'aime pas qu'il prenne un projet, mais j'ai l'impression qu'il fallait vraiment mettre le paquet pour essayer de gagner un titre plutôt que de, en guillemets, je veux bien dire ça, gaspiller un choix là-dessus.
Mais on est d'accord, on a eu le débat dans la rédaction même pendant le week-end. Moi, je suis d'avis que quand t'as un quarterback futur Hall of Famer, tu mets le paquet pour l'entourer, gagner un titre, tu feras le bilan une fois qu'il est parti. S'il y a 2 ans de galère, il y a 2 ans de galère. Mais comme John Elway l'avait fait parfaitement avec Peyton Manning pendant ces dernières années, comme les Saints le font très bien avec Drew Brees, voilà, tu dois le faire, tu dois le faire. Et c'est en ça que c'est, moi, forcément un redoublement. T'as Aaron Rodgers qui est quand même un futur Hall of Famer, tu dois faire ton maximum pour qu'il ait les armes pour gagner maintenant.
On est d'accord, Alain, sauf que tu prends l'exemple de John Elway, je suis d'accord avec toi. John Elway avait drafté Brock Osweiler au deuxième tour, dans ce processus de « on va gagner tout de suite ». Ça veut pas dire, c'est exactement ce que je dis. Le fait de prendre un quarterback premier, deuxième tour, c'est pas incohérent avec le fait de quand même bien entourer ton quarterback. C'est pas la même chose.
Oui, alors, mais du coup, ils réussissent aucun des deux. Alors, déjà, il y a la symbolique du premier tour, parce que ça reste quand même plus symbolique qu'un deuxième, même si je suis d'accord avec toi qu'il y avait eu Brock Osweiler, mais la symbolique du premier fait que, voilà, il y a quelque chose. D'autant que ça semblait être un reach et qu'ils ont monté un échange pour aller le chercher.
C'est un read, je sais pas. Mais oui, vas-y, je te laisse porter.
Et après, encore une fois, il fait pas bien la deuxième partie de l'équation que faisait très bien John Elway, qui était de rajouter des trucs autour pour l'entourer. Même s'il faut toujours une part de chance, évidemment. Mais Elway l'avait très bien fait. Les Packers font pas du tout ça avec Rodgers depuis quelques années. Et ils le montrent encore une fois dans leurs déclats, qui sont complètement contradictoires. Tu peux pas dire on prend un mec qui sera prêt dans 3 ans, mais en même temps on joue le titre, etc. Moi, j'ai dû, je sais pas. Après, on n'est pas dans les papiers, mais ça sent le coach qui veut mettre sa patte sur le truc, même s'il le dit ou pas. En fait, et les coachs qui pensent qu'ils sont plus importants que le quarterback, quand c'est un quarterback futur Hall of Famer, j'ai du mal à y croire. Mais
en fait, si tu veux, alors je vais pas faire un débat d'une demi-heure encore une fois, hein, mais faut pas perdre de vue le fait que Matt LaFleur, c'est un comparse, un élève, on appelle ça comme on veut, de Kyle Shanahan, et que le but principal de son attaque, c'est de blinder notamment au sol. Et ça s'est vu en 2019, hein, je veux dire, Aaron Rodgers, c'était pas le pion essentiel de Green Bay en 2019. La différence, c'est que notamment sur les deux confrontations entre les Niners et les Packers, un Shanahan et le système arrivent à faire briller un Garoppolo, sauf que Rodgers n'arrive pas à faire briller le système de Matt LaFleur. Donc il y a peut-être aussi une volonté de la part du coach des Packers de épiquer au vif son quarterback titulaire qui a montré quand même des signes d'intermittence qui sont un peu fréquents, je trouve, ces dernières années, et de préparer le futur. Après, encore une fois, c'est complètement à mettre de côté avec la draft en elle-même des Packers qu'on peut trouver incohérente. Ils ont peut-être une parfaite confiance en leur corps de receveur, en un équanisme, en un Sam Brown qui revient de blessure. Et voilà, il y a peut-être des éléments que nous on n'a pas.
Alors, je suis d'accord dans l'ensemble avec toi, mais juste deux choses. Un, si tu veux le piquer au vif, tu lui passes un coup de fil et tu gâches pas un choix du premier tour.
Hein. Mais ça, on ne sait pas s'il va passer le coup de fil.
et deuxièmement, s'il a bossé avec Kyle Shanahan, il lui aura pas échappé que quand il est allé au Super Bowl avec les Falcons, c'était un MVP à la tête de l'attaque et c'était un quarterback.
Oui.
Bon, ah oui, Matt Ryan, c'est pas un peintre quand même quand il va au Super Bowl, non?
Mais j'ai pas dit que Matt Ryan c'était un peintre, mais aux dernières nouvelles, quand il est retourné avec San Francisco, Garoppolo c'était tout sauf le MVP de l'équipe. Donc
non, je sais, mais ce que je veux dire c'est
il a profité, mais malgré tout, je veux dire, tu regardes l'attaque au sol cette année-là d'Atlanta, même si t'as Ryan MVP, même si t'as un Julio Jones qui même si t'as des phénomènes sacrés, sur leur position, le jeu au sol était une part prépondérante de l'attaque d'Atlanta.
Non mais on est d'accord, mais c'est des sacrées variables. Quand t'as un quarterback de haut niveau, tu peux aussi essayer de lui donner des cibles. Tu donnes Julio Jones à Matt Ryan, tu vois ce qu'il fait, tu te dis bon, oui, mais te donner un peu de matos à Ronald Jones.
Le but du système, c'est avant tout d'avoir une cible prioritaire dans le domaine aérien. Jones l'était à Atlanta, Kittle l'est à San Francisco, et à Green Bay, c'est Davante Adams. Mmh. Je veux dire, après, on peut donner d'autres cibles qui en est en effet, mais le système à part entière, c'est pas forcément d'avoir 8 receveurs qui vont réussir à avoir milliards chacun exagérant un peu. Mais
je suis plus fan des coachs pragmatiques que des coachs qui veulent absolument adapter leur système. C'est une question de philosophie, mais moi les mecs qui veulent mourir avec leur système en disant je m'en fous du quarterback alors que c'est Aaron Rodgers, j'ai un peu de mal. Mais voilà, comme tu dis, là, on est en train de perdre beaucoup de temps là-dessus. On va retourner sur la draft, donc redoublement sur les Packers, les Vikings. Derrière, alors les Vikings avaient énormément de choix. Justin Jefferson, receveur, Jeff Gladney, cornerback, Ezra Cleveland, tackle, Cameron Danzler, cornerback, DJ Wonum, defensive end, James Lynch, defensive line, Troy Dye, linebacker, Harrison N, cornerback, KJ Osborne, receveur, Blake Brandel, guard, Josh Metellus, safety, Kenny Wilkis, defensive end, Ned Stanley, quarterback, Brian Cole, safety. Et Kyle Hinton, garde, je ne sais pas combien j'en ai dit, mais il y en avait un paquet. On va pas tous les détailler, messieurs, parce que là, sinon, l'émission, elle va faire 4 heures. Mais il y a l'air quand même d'y avoir du bon matos et du bon matos sur les bons postes. Kevin, on t'a un peu abandonné avec notre long débat. Je te laisse nous donner ton avis sur les Vikings.
Non, alors, tu as déjà très bien résumé mon impression de leur draft. Il y a des besoins qui ont été comblés. Ils avaient perdu quand même deux gros joueurs en Xavier Rhodes et Stephen Diggs. Ils ont aussi perdu Everson Griffin. Mais ça n'a pas vraiment été encore pallié, même si DJ Wonum apporte un petit peu dans le pass rush. J'ai l'impression que c'est relativement solide. Après, évidemment, il faudra voir ce que ça va donner la première année. J'ai l'impression que Justin Jefferson peut faire le boulot, Jeff Gladney aussi. Je suis pas convaincu par Ezra Cleveland. Après, ça, c'est mon avis personnel. Même si c'est un très bon athlète, j'ai l'impression que techniquement, c'est un peu un problème. Je veux dire, dans les premiers tours, il y a quand même des choix solides et pour moi, j'irai vers compliment.
Compliment, Grégory.
J'irai vers compliment également. Il y avait pas mal de besoins, mine de rien, qui ont été extrêmement bien considérés avec des joueurs que j'aime beaucoup, Wonum et Willekes, notamment sur le poste de defensive end. Je pense que ça peut être vraiment des styles dans la défense de Minnesota. Et puis, ouais, on a fait pas mal de bonnes pioches, donc compliment pour moi aussi. Ouais.
Compliment pour les Vikings. Les Chicago Bears avaient beaucoup moins de monde au programme. Cole Kmet, tight end, Jalen Johnson, cornerback, Travis Gibson, defensive end, Kendall Vildor, cornerback, Darnell Mooney, receveur, Arlington Ambride, guard et Latavius Simmons, guard.
On a donc renforcé avec deux cornerbacks, deux gardes, un tight end et un receveur. Donc deux cibles, deux corners, deux gardes. C'est assez étalé. Il n'y a pas d'énormes noms. C'est une draft un peu, je vais pas dire transparente, mais pas remarquable en tout cas pour Chicago, Grégory.
Non, mais c'est des choix que je trouve assez, assez judicieux. Colt Kmet à mettre dans l'ombre dans un premier temps de Jimmy Graham, même si je pense que dès sa première saison, il y aura de quoi être titulaire.
C'est plus une ombre très large. Hein.
Il va être principalement bloqueur dans un premier temps, le temps de vraiment développer, en tout cas devenir un peu plus complet. Jalen Johnson, ça correspond parfaitement au type de défense de Chicago pour épauler Kyle Fuller en tant que cornerback, ça me paraît extrêmement solide. Et puis il y a quelques projets que je trouve pas mal. T'as cité Kendall Wilder en corner, c'est pas mal aussi. Le receveur également, Darnell Mooney, dont on parle pas beaucoup, mais qui sera à surveiller. Non, franchement, c'est des projets intéressants. Je suis entre encouragement et compliment. Je laisserai Kevin trancher en l'occurrence.
Kevin, à toi de trancher donc.
Alors, je vais rejoindre Greg sur pas mal de choix. Moi, peut-être justement celui qui m'a le moins convaincu, non, c'est pas à cause du joueur que j'aime beaucoup, mais Colt Kmet, pour moi, c'était pas vraiment un besoin. Parce que, sauf erreur, maintenant, les Bears ont 9 tight ends dans leur effectif.
9 ou 10, oui, c'est un truc énorme.
Ça me paraît quand même. Parle, ouais. Même s'il n'y en a pas vraiment un dominant, donc oui, peut-être qu'il fallait un tight end, mais est-ce qu'il ne faut pas en dégager à ce moment-là? Enfin, ça me paraissait pas être le bon moment pour drafter un tight end. Sinon, j'aime bien leur choix, notamment, justement, comme disait Greg, Darnell Mooney, qui pour moi ressemble beaucoup à KJ Hamler, qui était dans cette draft. Peut-être un petit peu moins fort, évidemment, mais qui a un peu les mêmes attributs. Et puis qui sera à surveiller. Donc, je suis plutôt sur compliment aussi.
Compliment donc pour les Bears. Les Lions, pour terminer cette division NFC Nord, là il y a du glamour. Hein. Jeff Okuda, cornerback, d'André Swift, running back, Julian Okwara, defensive end, Jonah Jackson, guard, Logan Stenberg, guard, Quintez Cephus, receveur, Jason Huntley, running back, John Penizini, defensive tackle, et Jason Cornell, defensive tackle. Il y a des grandes facs, hein, Ohio State, Georgia, Notre-Dame, Ohio State, un autre d'Ohio State à la fin. C'est plutôt pas mal. Jeff Okuda est évidemment le choix le plus remarquable, mais il y a DeAndre Swift aussi derrière pour une équipe qui se cherche un running back depuis quand même Barry Sanders, hein, grosso modo. Est-ce que va y avoir enfin un semblant de jeu au sol, un mec à plus de milliards pour épauler Matt Stafford, par exemple, Kevin?
Bon, alors, j'aime bien cette sélection exactement pour le problème qu'il y a eu au poste de running back.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Depuis ces dernières années. Après, j'aimais bien la sélection de Kerryon Johnson. Le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment capable de rester en bonne santé. C'est un très bon running back, mais qui a été malheureusement lavé à Auburn par Gus Malzahn, comme il a l'habitude de le faire. Et puis, donc, c'est vrai que DeAndre Swift, ça apparaît comme un bon choix. Jeff Okuda, pour moi, il n'y a pas de discussion, même si ce n'est peut-être pas le poste que j'aurais choisi. Mais de manière générale, je trouve ça relativement solide. Ils ont amélioré la ligne offensive également. Quintez Cephus, qui pour moi a un bon potentiel, même si il a de la peine à mettre de la distance entre lui et son défenseur. Mais c'est un joueur qui est fort quand il est au contact. C'est un gros gabarit. Donc pour moi, c'est relativement solide et j'irai sur compliment.
Compliment, Greg. Est-ce que tu es d'accord aussi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes. Est-ce qu'ils sont bien renforcés au niveau des lignes avec Jackson, Stenberg en attaque et puis en défense, il y a Okwara, defensive end, et puis Pensini et Cornell, defensive tackle?
Alors c'est le distinguo que j'allais faire. C'est vrai que offensivement, je trouve ça très intéressant. DeAndre Swift en plus derrière Jackson et Stenberg étaient deux gardes que j'aimais pas mal. Je pense qu'en effet le jeu au sol a enfin moyen, surtout avec un Darrell Bevell qui est bien spécialisé dans le domaine, d'être enfin pleinement efficace et de soulager un peu un Matthew Stafford qui va revenir de blessure. En défense, j'ai toujours les mêmes points d'interrogation. Julian Okwara, ça reste pour moi du pass rusher occasionnel. Alors pour la belle histoire, Matt Patricia essaie de nous faire du Belichick. Hein. Après les McCourty, entre autres, il nous réunit les Okwara à Détroit. Pourquoi pas. Après, c'est vrai que bon, sur le front 6-7, ça me paraît un petit peu léger encore. Voilà, c'est peut-être un petit peu le bémol. Détroit a beaucoup déçu, notamment en défense en 2019. On va espérer que ce soit pas trop le cas en 2020, mais je vois pas une progression fulgurante dans ce domaine-là de par la draft qui a été effectuée.
Alors du coup, bien en attaque, moins bien en défense, est-ce que ça suffit pour les compliments?
Je suis encore à la frontière entre encouragement et compliment, donc je laisse Kevin trancher là-dessus.
Allez, Kevin.
Moi, j'avais plutôt compliment.
Allez, on va être compliments. Ça va faire 3 compliments en NFC Nord pour les Vikings, les Bears, les Lions, pendant que le mauvais élève Green Bay redouble. Jingle et la suite.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Conseil de classe de la conférence NFC continue, messieurs, avec la NFC Sud et des New Orleans Saints qui n'avaient pas beaucoup de choix. Seulement 4. César Ruiz, garde de Michigan. Zach Bone, linebacker de Wisconsin. Adam Trotman, tight end de Dayton. Et Tommy Stevens, un quarterback de Mississippi State. Alors, on peut le dire tout de suite, Tommy Stevens qui ne devrait pas avoir beaucoup de place parce qu'ils ont re-signé Tyson Hill pour 2 ans et 21 millions de dollars avec 16 garanties. Et Jameis Winston, alors, était annoncé dimanche proche des Saints. Je ne sais pas si le contrat était finalisé d'ailleurs au moment où on se parle. On enregistre un lundi matin, pour être très honnête. Mais ce serait sur le chemin. Donc, Tommy Stevens, a priori, là-dedans, dans l'équation, ce serait practice squad ou rien, puisqu'il se retrouverait derrière Taysom Hill et Jameis Winston. Donc, ouais. on peut évacuer ça.
Je suis pas sûr que c'était celui qui allait bousculer Drew Brees de toute façon. Hein.
Même pas d'ici un an alors.
Non.
Je te taquine. César Ruiz, Zach Bone, Adam Trotman, est-ce que ça suffit à faire une bonne draft? Là, du coup, il n'y a que 3 joueurs si on enlève Stevens. C'est très peu. Est-ce que ça suffit, Greg?
Linebacker, il y avait des besoins. En plus, je pense que c'est sur un poste de linebacker 43 où je voyais un petit peu plus Zach Bone s'éclater. Et là, en l'occurrence, du côté des Saints, ce sera sa position. Donc pour un joueur polyvalent, voilà, hyperactif, capable de rusher, couvrir, ça va être une bonne pioche sur le deuxième rideau pour les Saints. Adam Trotman, mine de rien, sur le poste de tight end, où il y a certes Jared Cook, mais où on ne sait pas pour combien de temps, voilà, avoir une solution d'avenir sur ce poste-là, c'est pas une mauvaise chose. Après, du coup, César Ruiz, c'était un luxe, mais encore une fois, avec un Larry Warford qui coûte relativement cher. Et encore une fois, sur une ligne intérieure qui doit aussi ouvrir pas mal de brèches, hein, Alvin Kamara, un peu sur courant alternatif, je trouve, la saison passée. Donc, il y a quand même beaucoup de cohérence et ça permet en tout cas cette équipe des Saints de renforcer le peu de besoins qu'ils avaient dans l'optique d'aller chercher un Super Bowl en février prochain.
Peu de besoins bien comblés, Kevin?
C'est exactement ça. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que disait Greg. Peut-être, oui, comme il disait, un petit peu un luxe de prendre César Ruiz, mais au final, si on veut faire performer Alvin Kamara, c'est peut-être la bonne solution. Donc, pour moi, il y a Zach Bone est dans le bon système. Adam Trotman était, à mon goût, un des meilleurs tight ends de cette draft, même si c'est un joueur de troisième division. D'après moi, il a un gros potentiel. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire.
On met quoi sur une draft à 3 joueurs, mais bien maîtrisée? Enfin, à 4, du coup.
Compliment.
Compliment.
Ouais. Compliment, bon, c'est la qualité. On a joué sur la qualité du côté des Saints.
Il n'y a pas beaucoup de besoins, donc
c'est vrai.
Quand c'est bien fait, c'est compliment.
C'est vrai. Et on rajoute, hein, encore une fois, donc derrière, un des événements, du coup, c'est l'arrivée de Jameis Winston ce week-end, qui devrait être pour une seule saison, donc il va pouvoir faire ses preuves. Atlanta Falcons, Edge Terrell, cornerback, Marlon Davidson, defensive end, Matt Hennessy, centre, Michael Walker, linebacker, Jalen Hawkins, safety, et Sterling Offshitter, punter. Il n'y a pas
énormément de choix non plus. Il n'y en a que 6. Du côté d'Atlanta, Grégory, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Est-ce que tu ressors heureux de cette draft?
Oula, alors heureux, n'exagérons rien.
Hein. Plein d'espoir.
Ouais, je reste forcément mitigé. Comme souvent avec Dimitrov, il y a des besoins qui ont été considérés. A priori, Marlon Davidson, que je voyais plus comme un defensive end, va être essayé comme defensive tackle chez les Falcons. Donc, aux côtés de Grady Jarrett, ça peut donner un duo relativement intéressant. S'il réalise la transition correctement, en tout cas, ça va être un bon duo d'affamés au milieu de la ligne. Matt Tennessee, j'aime beaucoup, sachant qu'il y a quelques interrogations sur le poste de garde et qu'Alex Mack est possiblement dans sa dernière année de contrat. Et Edge Terrell, gros point d'interrogation, ça reste vraiment un projet dont j'étais pas énormément fan. Mais encore une fois, c'est des besoins. Même Michael Walker, voilà, c'est pas un joueur que je suivais énormément, mais il a une grosse activité sur le poste de linebacker, il peut couvrir. Donc ça peut être un Devondre Campbell bis, à voir s'ils arrivent à s'incorporer au système. J'irai pas plus haut qu'encouragement, mais il y a des besoins. Après, c'est quand même des gros projets qui ont été draftés pour la majeure partie du côté d'Atlanta.
Kevin, encouragement, est-ce que ça te va?
Moi, j'irai même presque un petit peu plus haut, même si je suis d'accord avec Greg de manière
générale. Il a fait des gros yeux.
Parce que GTRL, je suis pas non plus le plus grand fan, mais après, j'aime vraiment beaucoup Marlon Davidson et je pensais justement qu'il serait peut-être plus efficace au poste de defensive tackle. Ma Tennessee, c'est exactement ce qu'il leur faut. Et puis ensuite, Jalen Hopkins et Michael Walker, ça pourrait être des titulaires. Donc finalement, la défense qui devait être considérée a été vraiment considérée. Et puis on apporte un petit peu sur la ligne offensive. Donc pour moi, c'est solide. Et je suis plutôt parti sur compliment.
Mm-hmm. Greg, est-ce que tu montes pour ton équipe ou est-ce que tu restes prudent? Je te laisse le final cut.
Non, ça se tient, ce que dit Kevin. Après, Jalen Hopkins, c'est un gros potentiel. Oui, c'est plus pour anticiper la blessure de Keanu Neal, mais enfin l'éventuelle nouvelle blessure de Keanu Neal. Je sais pas. Si on veut mettre compliment, on peut mettre compliment, hein, mais je suis pas plus convaincu que ça non plus.
Bon, allez, on va rester sur encouragement pour pas mettre des bonnes notes à tout le monde quand même. Et puis, c'est validé par Greg, le Falcons en chef. Les Buccaneers, Tristan Wirfs, tackle, Antoine Whitfield, safety, Keyshawn Vaughn, running back, Tyler Johnson, receveur, Khalil Davis, defensive tackle, Chapel Russell, linebacker et Raymond Calais, running back. C'est une équipe qui avait pas mal de besoins, notamment sur la ligne offensive pour protéger son nouveau quarterback, Tom Brady. Il fallait de la ligne et un jeu au sol pour l'accompagner. Bon, il y a qu'un seul lineman, c'est Tristan Wirfs, et un running back, c'est Keyshawn Vaughn. Est-ce que ça suffit pour aider Tom Brady, tout ça, les deux là? Kevin ou Grégory, pardon, non, Grégory, je voulais dire ton nom parce que je t'ai vu commencer à parler.
J'y suis allé avec félicitations parce que oui, c'est certes, il y a pas énormément de linemen, mais bon, Tristan Wirfs, c'est quand même un super projet, surtout qu'il aura l'opportunité de commencer à droite. J'aurais pas été contre du côté de Tampa incorporer un petit peu de linemen intérieur pour mettre un peu plus de concurrence, on dira, au poste de centre ou de garde. Après, il y a encore des joueurs qui sont potentiellement signables, donc c'est pas non plus la position où faut dépenser 20 millions par saison. Pour le reste, franchement, c'est plus que cohérent. Il y a majoritairement des besoins en attaque et ça a été considéré. Keyshawn Vaughn, je trouve que c'est un running back dont on parlait très très peu dans le processus draft, mais qui va être un parfait complément de Ronald Jones, un bon bulldozer avec des bonnes mains en sortie de backfield. Ce sera pas trop, je pense, et je pense que Brady va rapidement apprécier le coup de main. Tyler Johnson, ça a été un crève-cœur parce que c'était un de mes receveurs préférés et ça viendra apporter encore un peu de flamme, on dira, dans le jeu aérien de Bruce Arians. Donc, j'y vais avec des félicitations du côté de Tampa.
Bon, le but, c'était d'entourer Tom Brady, notamment, et ils ont un peu renforcé leur défense aussi avec quelques choix. Est-ce que donc le contrat est rempli pour toi aussi, Kevin?
Oui, je trouve que c'est très bien ciblé. Tristan Wirfs, qui est à discuter le meilleur tackle de cette draft. Il y en avait plusieurs tout en haut, donc chacun a son avis là-dessus, mais c'est parfait pour Tom Brady. C'est vrai qu'il y a un petit manque au milieu de la ligne, mais au final, est-ce qu'on veut, comme disait Greg, on ne peut pas signer encore un joueur ou deux? Et puis, Tyler Johnson et Keyshawn Vaughn, pour moi, c'est des styles, donc, enfin des styles. C'est des styles pour le système de Tampa Bay, donc pour moi c'est également félicitations.
Et comme les Cardinals, je crois qu'ils vont donc faire le doublé. Félicitations, Free Agency et draft pour les Buccaneers. Les Carolina Panthers avec une grande première, une draft 100% défensive, c'était du jamais vu. Derek Brand, defensive tackle. Yetur Gross-Matos, defensive end. Jeremy Sheen, safety. Troy Pride, cornerback. Kenny Robinson, safety. Bravion Roy, defensive tackle. Stanley Thomas, cornerback. Ils n'ont pris que des joueurs défensifs, c'est une première. Kevin, est-ce qu'ils se sont achetés une belle défense tout d'un coup et qu'ils vont retrouver les sommets de la NFC Sud grâce à ça?
Je suis un peu mitigé quand même par rapport à tous ces choix défensifs, même si au final, oui, il y avait des besoins en défense, il y avait... et les choix ne sont pas mauvais en soi, mais ça pose problème parce qu'au final... on n'aide pas tant que ça Teddy Bridgewater, même s'il a Christian McCaffrey et qu'il a eu Robbie Anderson, mais malgré tout, ça me paraît un petit peu... Ça me paraît très mince en attaque et qu'il fallait quand même les aider un petit peu. Donc, je ne vais pas aller complètement sur un redoublement parce qu'il y a des bons choix. Pour moi, Derek Brown, c'est le meilleur defensive tackle sans discuter de cette draft. Yetur Gross-Matos, c'est peut-être même un style à l'endroit où ils le prennent. Jeremy Chin, c'était peut-être le troisième meilleur safety, le troisième, quatrième. Donc, pour moi, c'est des choix solides, mais il manque clairement en attaque. Je vais attendre la note de Greg pour vraiment me décider. Mais...
Yetur Gross-Matos, c'était le sixième choix du deuxième tour, pour situer. Tu disais que c'était une bonne affaire. Grégory, donc, à la fois au niveau de l'orientation et des choix, c'est que du 100% défensif. Est-ce que tu es d'accord qu'il aurait peut-être fallu rajouter de l'attaque, comme le dit Kevin. Et est-ce que les bons choix comme Brand ou Gross-Matos sont suffisants pour en tirer une bonne note?
Ouais. Alors, j'étais parti sur compliment pour les Panthers.
Avec grand écart, là.
Il a dit quoi exactement
Kevin, il était entre redoublement et passable.
Ah bon? Ah ouais,
c'est la première fois que vous êtes aussi éloigné.
Grand écart, ouais. Non, parce que je trouve que les choix en défense sont très bons. En attaque, oui, je trouve que c'est dommage qu'il y ait des postes qui n'aient pas été considérés. Je pense que les Panthers, visiblement, on a voulu rendre hommage à Ron Rivera, parce qu'apparemment, c'est la même logique qui va être poursuivie du côté de Washington. On veut faire une défense dominante, mais j'ai peur que leur ligne offensive, par exemple, prenne l'eau en 2020. Il n'y a pas eu beaucoup de choix à considérer dans ce domaine-là. Après, le reste en attaque, on demande à voir. Je pense qu'on attend de voir ce que peut faire le nouveau coordinateur Joe Brady. Mais en tout cas, défensivement, il y a de la cohérence. Faut voir le système défensif qui est mis en place. Gross-Matos, pour moi, est plus un defensive end. Donc, si on veut jouer comme on annonce en 3-3-5 du côté du coordinateur Phil Snow, ça peut pourquoi pas faire du sens hein, sur le premier rideau, Gross-Matos. Après, le reste, non, je trouve ça cohérent. Un petit bémol peut-être sur le poste de cornerback. Je suis pas sûr que Pride ou Thomas Oliver pourront apporter dès leur première saison, ce qui va laisser Dante Jackson un peu seul. Mais si on coupe l'équation, je dirais allez, encouragement pour les Panthers selon moi.
Jusqu'où t'es prêt à monter alors, Kevin?
Moi, j'ai vraiment de la peine à monter plus haut que passable parce que ils viennent de signer un joueur comme Teddy Bridgewater qui est très fragile et il n'entoure pas vraiment au niveau de la ligne offensive. Donc si Greg dit que la ligne offensive va prendre l'eau, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus personne au poste de quarterback. Donc, pour moi, ce n'est pas plus haut que passable.
Bon, eh ben, on va s'arrêter à passable. Moi, j'irai là-dessus aussi parce que c'est vrai que ça… Je sais pas, il n'y a rien qui me titille. Bon, Greg est un peu déçu, mais là, on est...
En défense, compliqué. Ça va être costaud, je pense. Hein.
C'est compliqué parce qu'il y a un énorme écart. Hein. Donc, on va se mettre sur passable. Après, de toute façon, évidemment, les notes, c'est assez symbolique. L'idée, c'est que vous fassiez un avis en écoutant nos deux intervenants aussi. Ne vous arrêtez pas sur la note finale. On va s'arrêter à passable. Mais voilà, c'est pour trouver un terrain d'entente. Les notes pour la NFC Sud, Saints, compliments. Falcons, encouragement. Buccaneers, félicitations. Et Panthers, passable. La dernière division, la NFC Est. On commence avec les Philadelphia Eagles qui ont beaucoup fait parler dans la rédaction. Jalen Reagor, Jalen Hurts, quarterback, Devion Taylor, linebacker, Kevon Wallace, safety, Jack Driscoll, ligne offensive, John Hightower, receveur, Sean Bradley, linebacker, Quiz Watkins, receveur, Prince Tegawanogo, tackle et Kazeh Touil, edge rusher. Alors, on est parti sur un Jalen Reagor qui a fait hurler au premier tour les fans de Philadelphie parce qu'il restait beaucoup de monde derrière. Et Jalen Hurts derrière, ils ont doublé la mise. Il y avait un thème hein, cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient déjà un quarterback en place, qui en ont pris un autre derrière, très rapidement. Là, en plus, Carson Wentz, pour le coup, il est quand même beaucoup plus jeune que Aaron Rodgers, que d'autres. Alors, un peu plus vieux que Josh Allen. Hein. Les Bills ont pris un quarterback aussi.
Un peu plus fragile aussi.
un peu plus fragile, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, Réagor, on en avait parlé un petit peu dans le premier tour, mais Jalen Hurts, est-ce que ça fait baisser la note?
Grégory.
Oui. Oui, moi je veux bien hein, qu'on prenne un quarterback au deuxième tour, j'ai rien contre. J'aime beaucoup Jalen Hurts, en tout cas la personne. Après, le quarterback, c'est vraiment pas la direction que j'aurais prise. C'est quand même un quarterback qui, en termes de sécurité de ballon, de lecture, je pense que là on est à peu près à l'opposé de ce que peut proposer un Carson Wentz. Très franchement, peut-être que c'est ouais pour ajouter un petit côté jeux spéciaux cher à Doug Peterson, j'en sais rien, mais ça me paraît cher. Là, pour le coup, je suis complètement en désaccord avec ce qu'a fait Philadelphie. Un deuxième tour pour un quarterback du profil de Jalen Hurts, pour moi, ça me paraît limite du gâchis.
Oui, parce que du coup, c'est avant Eason, Fromm et tout ça, hein, dont on a déjà parlé. Kevin, Jalen Hurts, tu comprends le choix ou pas ?
Plus que Greg, c'est exactement ça. C'est un très bon, une bonne personne. Ça a l'air d'être un leader. Je veux bien, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Je suis pas persuadé. Après, en tant que projet, pourquoi pas, à la limite, derrière. Mais ça paraît très cher payé, donc justement. Et puis, moi, probablement, le choix qui me dérange mais le plus, c'est Jalen Reagor, parce qu'au final, Greg le disait jeudi soir, c'est Nelson Agholor 2.0.
Oui. Donc, oui, en effet. Donc, pour l'instant, pas vraiment convaincu par le haut de la draft. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans le bas de la draft de Philadelphie ?
Mais... Alors, ils ont considéré des postes à besoin, on peut pas dire le contraire. Ils prennent 3 receveurs, ils prennent 3 linebackers. En plus, les linebackers qu'ils prennent, pour le coup, Devion Taylor, je pense que ça peut être un joueur intéressant, qui peut être précieux sur la couverture. Sean Bradley, c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, je trouve. C'est pas forcément le profil le plus athlétique. Mais en tout cas, je pense que ça va être vraiment un run stopper qui, dans le système de Jim Schwartz, va pouvoir s'éclater. Donc vraiment, linebacker, c'est une bonne chose. Après, il n'y a pas de receveur numéro 1 hein, dans cette équipe. Quez Watkins, John Hightower, c'est des joueurs qui vont apporter de la vitesse. Après, je ne suis pas persuadé que vraiment ce soit des joueurs qu'on profite d'un receveur numéro 1. Donc, on va repartir sur un Alshon Jeffery et puis les autres, a priori, pour 2020.
Kevin, quelle note on met finalement ?
Moi, j'ai un passable parce que je n'ai pas vraiment. Il y a vraiment pas grand-chose qui me fait sauter de joie là-dedans. C'est vrai qu'au niveau linebacker, c'est intéressant. Même éventuellement Kevin Wallace qui va venir peut-être un peu remplacer Malcolm Jenkins. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment de la peine à m'enthousiasmer pour cette draft.
Greg, est-ce qu'on descend redoublement ?
Franchement, on peut. Hein. Alors, c'est vrai que nous avons dû Ngakoue. Pour l'instant, rien n'est fini, mais il n'y a pas de defensive end non plus. J'y vais sur redoublement pour Philadelphie.
Allez, j'entérine le redoublement. Les Dallas Cowboys, messieurs, CeeDee Lamb receveur, Trevon Diggs cornerback, Neville Gallimore defensive tackle, Reggie Robinson cornerback, Tyler Bialach centre, pardon, Bradley Anae defensive end et Ben DiNucci quarterback à James Madison. Alors là, c'est de la draft glamour. Il y en a 5 qui ont été fichés sur les 7 et ça ressemble à une très belle draft. En tout cas, sur les noms, c'est hyper glamour. Ils ont rajouté du jeu aérien, ils ont rajouté un cornerback, ce qui n'est pas du luxe puisqu'ils avaient perdu Byron Jones. Ils ont rajouté Neville Gallimore, que vous aimiez bien, si je dis pas de bêtises. Donc, ça ressemble à une draft très réussie, Kevin.
Oui, alors, pour moi, c'est, je vais le dire tout de suite, pour moi, c'est félicitations, pas de par le côté flashy ou glamour, mais simplement parce qu'au final... Dallas s'est un peu planté en fin de saison passée, mais ils avaient un effectif assez complet. Et puis, ils ont adapté la politique du meilleur joueur disponible. Donc, pour moi, une équipe complète avec la politique du meilleur joueur disponible, c'est une réussite. CeeDee Lamb, c'est clairement un style en 17. Donc, même Trevon Diggs, qui a un gros potentiel, même avec des lacunes, pourquoi pas, il y a le temps de le développer. Neville Gallimore pour moi c'est également un style, donc, et Bradley Anae pareil, donc pour moi c'est félicitations.
Bon, du style à des bonnes affaires à tous les étages et des félicitations. Grégory, est-ce que tu partages?
Alors, je suis resté un compliment parce que, en effet, il y a des postes à besoin qui ont été comblés. Il y a d'énormes styles, en effet, type Lamb, Gallimore. Je suis un peu plus sceptique sur les choix Diggs et Anae dans le sens où, alors, on me dit hein, que la défense de Dallas va rester en 43. J'ai encore mes réserves là-dessus. Si c'est le cas, Anae, c'est une bonne pioche. S'ils incorporent un peu plus de 34 à Naïs, ça va être un peu compliqué. Après, ils peuvent avoir un système un peu hybride. Hein. McNolan a déjà fait ça à Atlanta. Mais j'attends quand même de voir concernant ce choix. Trevon Diggs, je ne suis pas persuadé, surtout qu'ils avaient besoin d'un cornerback numéro 1. Et Trevon Diggs ne répondra pas à cette problématique dans l'immédiat. Donc voilà, c'est ce qui m'amène à faire un petit bémol et du coup à rester plus sur des compliments que sur des félicitations.
Ah, du coup, je sais pas quoi trancher là. Du coup, entre compliments et félicitations, ça me semblait pas mal les arguments de Kevin. Moi, j'aime bien. Il y a du.
Tu peux mettre félicitations.
Très bon joueur. Moi, je vais aller sur.
Le talent est là, hein, c'est indéniable.
Bah écoute, je vais être l'optimiste sur ce coup-là. Je vais aller sur les félicitations. J'aime bien le côté renforcer l'aérien avec CeeDee Lamb. On est dans une NFL où il faut toujours plus de cibles, donc ça, c'est pas mal. Défendre l'aérien avec Diggs aussi, Gallimore, ça renforce. Biadas pour la ligne offensive qui a toujours été bonne et continue à la garder à niveau. Donc je vais aller sur félicitations. Allez, je vais être un positif. Les New York Giants, Andrew Thomas, tackle, Xavier McKinney, safety, Matt Peart, tackle, Darnay Holmes, cornerback, Shane Lemieux, guard, Cameron Brown, linebacker, Carter Coughlin, linebacker, TJ Brunson, linebacker, Tay Crowder, linebacker. Alors, une équipe dont on disait qu'elle avait peu de linebacker, il y en a quand même trois, même quatre, si on prend l'autre scène, linebacker, Cameron Brown, pour terminer. Il y en a un qui est leur linebacker du futur là-dedans, sachant qu'ils ont déjà signé Josh Hobert, hein, si je dis pas de bêtises.
Kevin?
Kevin, ils ont des linebackers.
Ils ont des linebackers. Alors, je suis quand même relativement convaincu par le haut de leur draft. Disons, Andrew Thomas, c'est clair que c'est une très bonne pioche. Il a été un peu décrié, mais moi, je le trouvais toujours aussi bon que ce qu'il avait été à Georgia. Matt Peart, ça peut être clairement un titulaire, même s'il y a un peu de développement à faire. Et puis Xavier McKinney, qui élève un petit peu cette défense qui a été catastrophique l'année passée. Shane Lemieux qui est aussi un bon renfort pour cette ligne offensive. Donc, je suis assez convaincu, même Darnay Holmes qui pourrait être un titulaire, je suis assez convaincu par le haut de la draft. Après, j'avoue que les joueurs dans le... Il y a beaucoup de linebackers, mais il n'y en a pas beaucoup qui me rendent...
Après, on
positif. Pardon.
Pardon, oui, non, tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup qui t'enthousiasmaient. Après, j'allais dire, je suis désolé, j'étais un peu coupé vite, mais l'essentiel, on taquine sur les linebackers de fin de draft, mais ça reste des choix de fin de draft. Le haut de la draft, un des enjeux, c'était d'entourer Daniel Jones et Baker Mayfield. De ce que tu dis, ça a l'air plutôt pas mal.
Saquon Barkley, tu veux dire.
Et Saquon Barkley, excusez-moi. Daniel Jones et Saquon Barkley. Ça a l'air plutôt réussi avec Andrew Thomas, Peart, Lemieux. Et ça fait trois linemen offensifs qui ont l'air d'avoir un avenir.
Oui, je pense que oui.
Greg, est-ce que ça suffit pour faire une bonne draft? Ou t'as pas l'air convaincu par ces trois noms?
Bah écoute, alors toute proportion gardée, hein. Aaron Rodgers il est mal entouré, mais je cherche le receveur numéro 1 de Daniel Jones, parce que moi je l'ai toujours pas vu, et visiblement les Giants apparemment ils l'ont pas vu non plus. Donc dans une classe quand même où
c'est vrai qu'il y a
on avait un groupe de receveurs massif, de pas réussir à prendre au moins un receveur pour essayer de bouleverser un peu la hiérarchie, j'avoue que j'en suis tombé de ma chaise. Mais après les tackles en eux-mêmes ils sont pas mauvais. Andrew Thomas, oui, c'est starter immédiat. Matt Peart éventuellement au bout d'un ou deux ans. Mais derrière, pour répondre à ta question, Cam Brown, oui, c'est un projet intéressant en inside linebacker, mais ce ne sera pas dans l'immédiat. Alors, je suis un peu déçu du fait que les Giants n'aient pas considéré un receveur pour vraiment booster un peu plus cette attaque, surtout avec l'arrivée de Jason Garrett en coordinateur offensif.
Alors, on est sur quoi, du coup, de l'encouragement? Parce qu'ils ont quand même renforcé la ligne, ce qui est important quand tu as un jeune quarterback.
Oui. Encouragement, mais je n'irai pas au-dessus, hein, personnellement.
Encouragement, Kevin?
Oui, bah c'est vrai qu'en fait les arguments de Greg sont bons. J'étais plutôt parti sur compliment, mais petit compliment, donc encouragement, ça me paraît plus juste.
On termine avec les Redskins. Chase Young, defensive end. Antonio Gibson, running back. Sadiq Charles, tackle. Antonio Gandy-Golden, receveur. Keith Ismael, centre. Kaliki Hudson, safety linebacker. Cameron Curl, safety. Et James Smith-Williams, defensive end. Alors, Chase Young, c'était le choix immanquable. Super pass rusher, etc. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce que derrière, il y a des choses intéressantes? Il y a beaucoup d'attaques. Hein, d'abord, un running back, un tackle, un receveur. On entoure celui qui sera le quarterback. Que ce soit Dwayne Haskins ou Kyle Allen. Comment?
Non, je disais que tu donnais pas de nom.
Bah non, on peut pas. On rappelle qu'Alex Smith revient de blessure peut-être un jour aussi. Est-ce que il sera entouré le quarterback avec ces trois là en tout cas?
Bah écoute, je vais me lancer du coup. Je sais pas. Non, la défense s'annonce monstrueuse. Donc oui, c'est une bonne chose que Washington ait enfin décidé de considérer l'attaque derrière. Les choix me laissent un peu pantois. J'avoue, un tackle pour remplacer Trent Williams, c'est bien, mais un projet de quatrième tour, ouais. Bon, ça va peut-être un poil régresser l'année prochaine. En plus, côté aveugle, c'est bien. Dwayne Haskins va être beaucoup plus rassuré si c'est lui qui reste titulaire. Et puis Ron Rivera qui fait fonctionner la machine à remonter le temps avec un Antonio Gibson qui est un espèce de Curtis Samuel bis, un Antonio Gunny Golden qui est peut-être sur le profil d'un Devin Funchess. Donc c'est bien, on reste sur des éléments un peu comme ça, mais je sais pas si vraiment l'attaque va être transformée avec ces sélections là. Donc à mon avis, ça va être une nouvelle année d'apprentissage offensivement parlant.
Quand tu dis un Curtis Samuel Beast, ça veut dire un mi-receveur, mi-coureur.
Mais oui, c'est ça. C'est ça, un profil très hybride, un running back qui peut facilement jouer écarté. Ouais.
Kevin, défense monstrueuse, mais attaque toujours à la traîne. Est-ce que tu es d'accord ?
Je serais peut-être un peu plus positif que Greg, même si j'ai quelques réserves, par exemple, sur Sadiq Charles, qui, d'après moi, est un très bon joueur. Le problème, c'est qu'il a eu des problèmes extraterrestres, donc il va falloir le canaliser. Donc de ce côté-là, je suis assez positif, même Antonio Gandy-Golden, qui pour moi est très complémentaire de Terry McLaurin. Et puis, au final, j'ai l'impression que avec une grosse défense et un peu d'amélioration en attaque, on peut quand même avoir une équipe améliorée dans sa totalité. Donc pour moi, j'irais quand même plus vers encouragement parce que c'est pas incroyable, mais ça va dans le bon sens.
Est-ce qu'on encourage cette jeune équipe, Grégory ?
Je ne sais pas. Je peux parler des corners hein, avec Ronald Darby qui est une bombe à retardement au niveau blessure. Moi, j'aurais du mal à aller sur passable, mais bon, on peut mettre encouragement éventuellement. Hein.
Bon, on encourage pour Chase Young, allez. Parce qu'il va rendre la défense. Il va rendre la défense monstrueuse. Ça fait donc encouragement pour les Giants et les Redskins. Félicitations pour les Cowboys. Redoublement pour Philadelphie. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 358 du podcast Jean Actu, deuxième débrief de la draft. L'émission vous était présentée par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine avec ses boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi boutique en ligne Brooklyn Fizz avec 2z.fr, sucré salé, mais aussi maillot NFL, casquette, ballon, t-shirt, goodies, Funko Pop, tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont aussi de la NFL, de la NBA, de la NHL et de la MLB, pardon, ça fait beaucoup de sigles, mais il y a toutes les ligues américaines. Merci à eux, évidemment, de nous soutenir. Et on remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Alors, comme c'est, je ne sais pas quand sera la prochaine émission, parce que là, on a débriefé la draft. Il y en aura peut-être une ou deux autres dans l'intersaison. On ne les a pas encore fixées. Mais en tout cas, je voulais absolument remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et les derniers, notamment Clint Snack, Julien, Vince, Maurice 99, Gruny 60, Yogi 17, Green Bryce, Nitinia, Gus, Thomas, Etche, V. Rigarey, j'espère que je n'écorche pas, je suis désolé. Moulins Boy, Hugo, Gandalf Le Groom, Baptiste M21, Théo Via, Pironovski, Bat et Mathieu. Vous avez été très nombreux à nous soutenir sur Tipeee pendant la draft, donc vraiment un grand, grand merci à vous. On se retrouvera très bientôt, bien sûr. Et très bientôt, je crois qu'il y en aura une ou deux quand même en mai et juin. Merci beaucoup, Grégory, merci beaucoup, Kevin, pour cette énorme couverture de la draft.
Écoute, avec plaisir. Et ouais, merci vraiment à tous mes comparses, hein, Kevin notamment, bien entendu, Jean-Michel, Mehdi, Sébastien. Enfin voilà, il y a tout un tas de personnes qui ont vraiment aidé et il y en avait besoin avec cette période un petit peu compliquée. Donc voilà, je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde pour se dispatcher les fiches et voilà, c'était une très très bonne chose qu'on puisse le faire avec autant de complicité. J'espère que ce sera toujours le cas en 2021.
Clairement, je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde sur les fiches, après sur la mock draft.
J'ai oublié Victor, excuse-moi, je m'en excuse.
Et Victor Roulier. Ouais. Donc voilà, mais en effet, merci à toute l'équipe, comme d'habitude. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TajanActu en entier, les comptes perso @TiloRadioSa pour Greg, @KevinZarmaten pour Kevin @AlainMatei pour moi-même. Le site c'est TDActu.com, toute l'actu de la NFL. Continuez à venir pendant l'intersaison sur le site, un, parce que ça l'aide à fonctionner, et puis deux, parce qu'il va y avoir quand même des choses. On va avoir une équipe type de la NFL qui va venir pendant le mois de mai. On va avoir encore des choses sur les casques NFL après les maillots l'an dernier. On va aussi avoir un tribunal du Hall of Fame au mois de juin qui devrait réserver pas mal de débats parce qu'on va débattre des chances de rentrer au Hall of Fame de certains joueurs qui sont un peu borderline. Même certains.
Et oui, Matthew Slater au Hall of Fame, je le dis, je voilà, le répète.
Certains special teamers notamment vont faire pas mal de débats. C'est peut-être pour ça qu'on va peut-être faire une ou deux émissions aussi. En tout cas, ça prévoit beaucoup, beaucoup de choses.
Il y a toujours plus de série aussi.
Bah, les hors-série, pour l'instant, il n'y en a pas de Calais, mais c'est pas fait encore. Bon, en tout cas, merci encore à toute l'équipe du site hein, également, parce que vous le voyez, il y a de plus en plus de contenu, même pendant l'intersaison. Donc, n'hésitez pas à continuer à venir. C'était dactu.com. On lance le générique, si je le retrouve. Hop là. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci, messieurs. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.